Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, tu as rendez-vous avec Émilie et Coralie. Alors souvent, c'est dans les pires moments de la vie que l'on découvre qui sont nos vrais amis, celles et ceux sur qui on peut compter, avec qui le lien amical se transforme en relation familiale. Il y a quelques années, et c'était finalement il n'y a pas si longtemps, Coralie a dû faire face à la maladie et tout ce que ça implique. Pronostic vital engagé, des médecins peu optimistes quant à son avenir. Et à ce moment-là, elle a pu compter sur le soutien indéfectible, évidemment, de ses proches, mais aussi d'Émilie. Et avant la maladie, Émilie et Coralie, elles étaient déjà comme des sœurs. Elles ne se lâchaient jamais, et elles ne se lâchent toujours pas d'ailleurs. Toutes les deux, elles sont comédiennes, elles ont une troupe à gérer ensemble, et elles montent des spectacles. Et aussi, parfois, elles s'autorisent quelques vacances en famille. Leur témoignage, il est précieux, alors je t'invite à l'écouter attentivement. Je te souhaite une très bonne écoute.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie, il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps.
L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants.
You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. You can count on me cause I can count on you.
Et à quoi ça sert les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment?
N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié?
Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami.
Salut à toutes les deux, Coralie et Émilie. Merci de partager ce moment sur Friendship avec moi.
Bonjour.
Merci, bonjour.
Pour commencer, j'aimerais que vous vous présentiez. Donc chacune va présenter l'autre pour savoir un peu comment vous parlez l'une de l'autre.
Ok, tu commences, je commence.
Vas-y,
je vois ton regard éloquent. Alors je vous présente Coralie Lascou, qui est comédienne, auteure, metteur en scène, multifonction. Voilà, qui est née à Boulogne, qui a grandi en région parisienne, puis qui est partie passer son adolescence à La Rochelle avant de revenir en région parisienne faire l'école Périmonie. Voilà, après elle a fait beaucoup de théâtre, des grands rôles classiques, un peu de cinéma, voilà, beaucoup de choses. Et puis ensuite, je l'ai rencontrée dans un spectacle d'improvisation. Et à partir de là, elle a fait surtout, je crois, de l'humour, beaucoup de spectacles d'impro, et beaucoup de mise en scène de spectacles. Elle a écrit également des spectacles qu'elle a mis en scène. Elle a mis en scène mes propres spectacles. Voilà, donc elle travaille énormément, elle sait tout faire. Et voilà, c'est Coralie Lascoux.
Oh là là,
quelle chose qu'on va pouvoir développer.
Quel CV. Eh bien, à ma droite, et ce n'est pas sa couleur politique, Émilie Pfeffer, 40 ans, 5 ans...
Je n'ai pas dit ton âge, moi, alors.
4250 moins que moi. Émilie, c'est une Alsacienne pure souche, voilà, qui a vécu en Alsace, et puis qui a rencontré là-bas le théâtre, et notamment l'improvisation, et après, elle est montée à Paris... pour faire son one woman show, pourquoi moi, et donner des cours d'improvisation, entre autres, à l'école du one man show. Et on s'est rencontrés autour d'un spectacle d'improvisation, et depuis, on travaille, j'allais dire presque on vit ensemble, non, on vit à 10 minutes, mais on partage beaucoup de choses, et professionnelles et personnelles.
Très bien. Alors, vous avez commencé un peu à en parler, mais comment est-ce que vous vous êtes rencontrés vraiment au tout début ?
Ben, un monsieur qui s'appelle Thomas Galzo, avec qui Émilie avait travaillé en Alsace, nous a conviés toutes les deux autour d'un atelier d'improvisation pour faire un spectacle. Donc, Émilie, c'était une pro de l'impro. Et moi, je débutais. J'avais jamais fait d'improvisation. Et très vite, on s'est retrouvés à faire un spectacle qu'on a joué très vite au point virgule. Et j'étais avec des maîtres, que des gens. On était 6 en scène, 5 personnes qui faisaient de l'impro et moi qui débutais. Et j'ai énormément appris, notamment grâce à la bienveillance d'Émilie et d'Hélène. On était 3 filles qui, toutes les deux, m'ont transmis... beaucoup de choses et m'ont rassurée, parce que l'impro, c'est chaud.
Et ça, c'était du coup il y a une quinzaine d'années, et vous êtes devenues amies tout de suite, ou ça a pris un peu de temps ?
Ben, ça a pris un peu de temps. Au début, on se connaissait pas trop, c'était un peu la découverte. Moi, je suis arrivée un peu... alors, elle m'a dit après Coralie, que comment elle m'avait perçue au début. Moi, je débarquais un peu, j'avais fait déjà avant qu'ils créent cet atelier, on avait déjà fait un peu des spectacles d'impro, mais moi j'étais beaucoup à Strasbourg à l'époque, et j'avais envie de faire moins d'aller-retour et d'être plus sur Paris, donc je me suis un peu plus investie dans cette troupe, et c'est vrai que Coralie au début, elle a eu l'impression que j'arrivais un peu en disant « faut faire comme ci, faut faire comme ça », parce que eux ils étaient un peu amateurs quand même, les garçons, Seb, Thomas et Mitch, ils faisaient ça vraiment pour le plaisir. Et moi, j'étais déjà intermittente, comédienne. Et j'avais envie que si je m'investisse à Paris, que ça devienne aussi mon métier. Donc j'ai pris un peu les choses en main en débarquant de là. Donc c'est vrai que j'ai certainement eu l'air d'être un peu brusque. Voilà, mais au début, on ne se connaissait pas trop.
Mais ça nous a tiré vers le haut. Hein. C'était, moi aussi, j'étais intermittente. Hélène, la troisième fille aussi. Il y avait ce décalage entre les garçons... qui, eux, avaient un métier, une vie à côté, médecin, caviste, avocat, et qui, nous, avions choisi et pris le risque de faire ce métier. Et c'est vrai qu'Émilie a très vite voulu le professionnaliser, et c'était important, et tu as eu raison.
Et vous étiez déjà dans la même optique, toutes les deux, de professionnalisation
Moi, non, parce que comme je débutais et que j'étais complètement terrorisée en improvisation, voilà, mais très vite... pas très vite, je les ai rattrapés. J'ai mis des années à avoir un bon niveau, mais très vite, en tout cas, je me suis dit oui. À un moment donné, on gagne du fric, on travaille énormément. Pourquoi être bénévole, quoi ?
Non, t'avais un bon niveau, mais tu manquais beaucoup de confiance en toi. Oui. Au début, je me rappelle que je te rassurais beaucoup parce que tu te comparais toujours, parce que t'avais une autre sensibilité, une façon de jouer qui était beaucoup plus justement dans la sensibilité, dans la construction, dans l'écoute. Avec d'autres qui étaient vraiment dans l'efficacité du gag, du comique, qui recherchaient. Et du coup, forcément, c'est pas les mêmes retours publics quand on recherche que. Mais toi, t'as commencé en travaillant sur quelque chose qui me touche beaucoup aussi, justement, sur cette construction, sur le fait d'inventer des histoires. Donc, t'as apporté énormément ton truc au spectacle.
Sans le voir, hein.
Voilà. Mais c'était moins efficace, donc c'est toujours beaucoup plus dur d'accepter ça parce que t'as pas le retour du rire direct. Mais moi, je me rappelle que toi, je te disais, mais si, ouais. T'as ton truc à apporter. Et après...
Non, mais c'est vrai que c'était 5 fortes personnalités avec vraiment un sens de la performance, parce qu'en improvisation, en humour, voilà, ça chante, ça danse, ça prend des accents, ça va dans tous les sens. Et moi, c'était pas mon truc. Donc, c'est vrai que j'avais beaucoup tendance à me comparer, mais Hélène, Émilie m'ont porté, m'ont soutenu. Et à un moment donné, on a dit stop, on fait un spectacle entre filles, entre meufs. Voilà, et c'est ce qui s'est passé.
Et donc, vous avez fait votre premier spectacle que vous avez écrit ensemble. Enfin, c'est...
Oui, ouais. On était un trio.
Ce travail-là, il s'est passé comment ?
Et ben justement, à partir du moment où on a eu envie de faire autre chose et d'être plus... sur la même longueur d'onde et plus être dans ce rapport un peu différent avec les garçons, on s'est dit on va faire un trio, puisqu'on s'entendait très très bien. Au début, on était vraiment trois dans cette amitié forte avec Hélène Mouchel, qui est partie depuis habiter en Normandie, mais on a créé ce trio qui s'appelait Blabla, où on a fait une sorte de magazine féminin improvisé. Voilà, on est parti sur cette idée de faire un peu des journalistes, et on a mélangé un peu ces deux passions, le côté un peu plus théâtral, avec une trame un peu écrite, des personnages précis qu'on avait, chacune avait son personnage, et des impros dans ce format qui était créé sur le moment. Donc on l'a créé au point virgule, et puis après on l'a joué pendant plusieurs années, un peu ailleurs.
Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendu compte que ça marchait, votre... Bon, alors au départ, le trio, maintenant le binôme pour travailler ensemble...
Oui, oui, et puis parce que aussi... C'est vrai que moi, quand Émilie est arrivée, j'avais une amitié très forte avec Hélène, hein, que j'ai toujours, mais Hélène, à un moment donné, elle a priorisé, et elle a tout à fait raison, sa vie de famille, après elle est partie, etc. Donc, moi, j'avais de temps avec Hélène, plus Émilie, qui avait le même genre de vie, je voyais Émilie. Et puis, Émilie m'a énormément aidée, puisque j'avais monté une compagnie au départ, qui est maintenant notre compagnie. Elle s'est investie, elle m'a aidée, parce que porter tout ça, c'est très lourd, c'est pas que de l'artistique. Il y a eu ça. Et puis, il y a eu qu'on a eu des enfants aussi. Toutes les trois, à peu près, en même temps, ou qui se suivaient. Et en loge, tu te prépares, tu te maquilles, mais tu parles aussi de tes problèmes avec tes gosses, de tes problèmes dans ton couple. Moi, j'étais une mère seule, donc Émilie, elle a eu beaucoup aussi d'empathie pour ma situation. J'ai élevé mon fils toute seule pendant des années, donc elle venait me voir, on faisait des trucs ensemble. Émilie, son mari, était dans le cinéma, donc il n'était pas souvent là. Donc c'est vrai que ça nous a aussi... élever les gosses ensemble, passer des vacances ensemble. Et puis, d'un seul coup, on se rend compte qu'on est devenu... qu'on fait tout ensemble, qu'on est devenu une famille.
Ouais, et puis, les années sont passées, on s'est pas rendu compte du temps...
Qui s'est écoulé, quoi. Non, mais c'est pour ça, avant de te voir, on s'est toutes les deux dit, mais ça fait combien de temps? On sait même plus.
Bah, ouais.
Et je crois que pour beaucoup de gens, on est indissociables, même si on a d'autres amitiés, mais on est indissociables, en tout cas dans le métier.
Ouais.
On nous appelle ou l'une ou l'autre. Si l'autre n'est pas dispo pour décrocher, pour demander un conseil ou pour un service, on appellera l'autre. En fait, j'ai l'impression que pour plein de gens, on fait une même personne, ou en tout cas une même fonction d'amis qui auraient une petite expertise sur des choses ou à qui on peut tout demander. Et ben c'est Emiko. Ouais.
Nom.
Ou Comélie.
Et sur la compagnie, toi, tu avais déjà créé ta compagnie, Émilie a rejoint ensuite. Comment est-ce que les discussions ont eu lieu pour se dire quelle place Émilie va avoir dans la compagnie, comment on se répartit le travail?
On n'en a jamais parlé.
Ça s'est fait tout seul. Émilie m'a dit non, mais si tu veux, je peux t'aider sur cette partie chiffrée, si tu veux, je peux machin, etc. Tu fais tout, ma pauvre. Émilie, elle est... Mais c'est l'histoire de notre amitié aussi, je pense. C'est qu'Émilie, elle veut toujours beaucoup me soutenir. J'espère que moi aussi, m'accompagner. Non, mais elle se rendait compte que, voilà, toute seule avec mon gosse, porter la compagnie, faire tout ci.
Puis je le faisais déjà pour, en fait, avant que... Au début, on avait deux compagnies, un peu. Il y avait la compagnie de Coralie qu'elle utilisait pour faire ses cours et avec les projets qu'elle faisait avec ses ados. Et on avait une autre compagnie qui s'appelait En Construction, avec laquelle on s'était fait nos premiers cachets, justement, qu'on avait monté pour les spectacles d'impro. Et quand le spectacle d'impro s'est arrêté, on a arrêté la compagnie En Construction pour passer sur la compagnie de Coralie, parce que c'était plus simple.
Et devenir un truc, voilà. Une compagnie professionnelle.
Moi, je m'occupais des cachets, de la compta, des trucs en construction. J'ai dit, si tu veux, je peux continuer à faire ça sur les spectacles qu'on fait.
Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Nous avons un comptable, nous sommes absolument dans les clous. Mais au début, je te parle de ça il y a 15 ans, forcément, on bricolait un petit peu, quoi. Donc voilà, et puis après, comment créer les spectacles ensemble ? Il y a eu Blabla, le trio toutes les trois. Après, Émilie a écrit un spectacle jeune public qu'elle a joué avec Hélène et moi. Et puis moi, après, je me suis dit, d'accord. Moi aussi, j'ai écrit mon jeune public. On a joué en tournant comme ça sur les rôles, parce que c'était à chaque fois des spectacles à deux. Et puis après, Émilie s'est dit, tiens, moi, je vais faire un spectacle seul pour les enfants. Et puis... Elle m'a demandé de l'accompagner en mise en scène. C'est un accompagnement total, c'est-à-dire aussi pour réfléchir à l'histoire, même si elle a écrit 99,99%, mais réfléchir ensemble à l'histoire, et puis après fabriquer, et puis créer ensemble, et voilà. Et puis du coup, on fait tout ensemble.
Hein. Et vous avez, parce que j'ai l'impression, du coup, vous n'êtes pas... fait une charte de travail pour... vous n'avez jamais eu peur que les visions soient divergentes, que ça mette à mal un peu la relation?
Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne, c'est qu'en fait, tout se passe très naturellement. On n'a jamais discuté, dit on fait si on fait progressivement, on a de plus en plus travaillé l'une avec l'autre, et comme ça se passait très bien, qu'on ne se disputait jamais,
jamais
professionnellement, on ne s'est jamais disputé, on n'a jamais été en désaccord, même dans la vie. On n'a jamais eu de dispute, de trucs. On s'est dit, c'est tellement simple. Justement, j'ai vécu beaucoup d'expériences, de troubles, de choses où, effectivement, au bout d'un moment, les égos de l'un, de l'autre, rentraient en cause. Là, ça ne s'est jamais fait parce qu'on... On se répartissait un peu les choses naturellement et sans se poser de questions. Et on était contentes quand ça marchait pour l'une, pour l'autre.
Ouais, je crois qu'il n'y a pas une semaine où l'une de nous n'écrit pas un texto. T'as fait ça au niveau de la compagnie? Écoute, tu le fais, je le fais. Et puis on se fait des rendez-vous comme ça, administratifs, deux fois par mois au moins, où on regarde tout ce qu'on doit faire. Ouais. Et puis l'artistique, en fait, tu sais, c'est des métiers en fait où t'as pas d'horaire, ou en tout cas nous on fonctionne pas en se donnant des rendez-vous. Je veux dire, on se couche le soir, on se brosse les dents, c'est toujours dans notre tête une création. Donc évidemment qu'il y a des réunions d'équipe, des répétitions, etc. Mais après on va boire un thé et parler aussi bien de notre gosse qui nous fait chier ou pas, c'est le cas du mien en ce moment, j'ai un ado, que des copains et que d'un film qu'on a vu, et puis de notre idée de spectacle ou de notre travail. C'est vrai que c'est très peu compartimenté.
Ouais. On peut se poser la question, on sait que dans les couples ou même parfois en amitié, le sujet un peu de tension, ça va être la répartition financière, comment est-ce qu'on en parle, etc. Vous, ça a jamais été un sujet ?
Jamais. Toutes les deux, je pense qu'on a vraiment pas de... Enfin, on n'est pas...
On n'a pas un rapport à l'argent.
On n'a pas un rapport à l'argent de rapace un peu, ou enfin... On est toutes les deux pas spécialement ultra riches ou voilà, mais on se retrouve à...
Je pense que...
On a envie que ça marche, on a envie de faire ce qu'on a envie de faire, mais c'est ce qui nous manque peut-être un peu, ce côté justement, faut que ça fonctionne un peu.
Il faut qu'on ait des thunes, on n'est pas
du tout là-dessus, ce qui... Parfois, justement, on s'encourage. Je lui dis, mais Coralie, fais un truc qui va te
rapporter plus. Émilie, elle est plus, moi, un peu plus, elle a plus les pieds sur terre que moi. Moi, je peux me laisser, alors que physiquement, je peux sembler terrifiante pour plein de gens qui me disent « Coralie, elle est impressionnante, etc. » Je peux me laisser marcher sur les pieds ou être dans un truc un peu fou. Et Émilie, elle me ramène sur terre souvent. Et ça, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on a chacune un rapport à l'argent. Je pense qu'on dirait de nous qu'on est des filles assez généreuses et que, voilà, on s'en fout.
C'est vrai que ça me dit faut que vous passiez un cran supérieur, faut être plus faut plus le vendre, c'est vrai qu'on fait ce qu'on a envie et de pouvoir en vivre, de pouvoir faire notre métier et en vivre correctement juste en faisant ce qu'on aime, c'est génial, mais c'est vrai que on pourrait former beaucoup plus de comédiens, vendre nos spectacles partout, toucher des droits d'auteur, mais pour l'instant, on n'a pas cette énergie ou ce côté. Peut-être qu'on y viendra.
On n'a pas la bosse du fric.
Voilà, on n'a pas la bosse.
En revanche, Émilie me rémunère fort bien me donne un pourcentage sur la mise en scène que je fais, alors que aujourd'hui je vais l'avoir joué 2 fois par an alors qu'elle joue 60 fois. Voilà, elle tient à me donner cette rémunération qui est de toute façon normale, mais elle me donne un peu plus que d'autres. Et puis j'espère être là à chaque fois qu'elle en a besoin, de la même façon que moi, quand j'écris une pièce, je paye tout le monde, dont Émilie. Je pense qu'on a ce même point de vue, c'est que dans ce métier, il faut payer tout le monde. Le salaire, c'est une gratification. L'argent est une gratification importante. Quand on a 20 ans, on peut travailler gratos. Quand on a 40, c'est fini. Et on est d'accord là-dessus. En revanche, on peut travailler pour pas cher, des fois, malheureusement.
Oui, puis surtout, ce qui change entre 20 ans et 40 ans, c'est que parfois, il y a des enfants qui arrivent, donc on n'est pas juste à devoir se soucier de notre propre personne. Quoi. Donc,
absolument.
Parce que vous avez dit que les enfants étaient arrivés à peu près en même temps, c'était un peu voulu. Je sais qu'il y a des amitiés où c'est voulu de se dire « Allez, on tombe enceinte en même temps ».
Non, c'est complètement le hasard de la vie. Surtout que, c'est rien, mais j'ai quand même 5 ans de plus qu'Émilie. Donc, finalement, j'ai eu un enfant plus tard que toi. Hélène aussi avait eu des enfants avant nous. Non, c'est l'appel des entrailles, le désir d'enfant, tout ça qui a fait qu'on a eu nos enfants en même temps. Et c'est très sympa parce que... on a pu partager plein de moments sans qu'aujourd'hui, moi j'ai un garçon, Émilie elle a des filles, et Hélène aussi avait des filles. Donc sans qu'aujourd'hui nos enfants soient proches ou machin, ils se voient tout le temps, ils n'ont pas forcément une relation, mais en fait c'est comme des cousins, tu vis ensemble, ou tu as un feeling énorme et puis tu fais tout ensemble, ou tu vis ensemble, là c'est le cas pour nos enfants. Achille a donné toutes ses cartes, pas toutes, mais beaucoup de ses cartes Pokémon à Joanne. C'est un geste d'amour. Maintenant, aller discuter ensemble 3 heures, ils le font pas.
Oui. Peut-être plus tard.
Peut-être plus tard.
Ils sont peut-être aussi dans
ce qui se crée dans la petite enfance, ça peut très bien les rapprocher pour plus tard.
Je pense que c'est ça. Je pense que c'est des gens qui se connaîtront toute leur vie et donc qui. Au fond, sauront qu'ils savent qu'ils pourront toujours compter les uns sur les autres, c'est vrai.
Ouais. Et puis même, j'imagine que ton fils a aussi une relation, peut-être un respect pour Émilie, et inversement, les enfants d'Émilie avec toi, quelque chose de très, un peu tati, quoi.
Il y a un truc familial, il y a un truc familial qui est là, c'est-à-dire que...
Voilà. Bah oui, je te rappelle, je t'avais raconté quand Joanne, à un moment, il y a eu qui disait « c'est quoi une tante ?» Et c'est Zélie qui avait dit, ou Johan, je sais plus, qui avait dit, c'est comme Coralie et Émilie. Alors que, en pensant que c'était comme c'était ma sœur, alors qu'en fait, on n'a pas de.
Surtout qu'en plus, Émilie a sa sœur. Ouais. Moi, j'ai pas de sœur, mais Émilie en a une. Une jumelle.
Dans l'exemple.
C'est ça, et c'est ce que je dis toujours à Achille aussi, quoi. Et parfois, ça m'est arrivé de le dire aux filles d'Émilie. Ouais, quand maman elle te gonflera, tu pourras toujours m'appeler moi. Trouver des relations. Et c'est vrai qu'on parle énormément de nos enfants, parce que les enfants, c'est une source de bonheur, mais aussi une source d'inquiétude. Et au fond, je pense qu'on élève nos enfants ensemble. Je n'interviens pas dans l'éducation des filles, ni Émilie, mais le fait qu'on en discute, on va chercher des solutions pour l'une ou pour l'autre. Ce qui arrive aux enfants d'Émilie me touche, ce qui arrive à mon fils touche Émilie, et puis voilà.
Et vous m'avez parlé de voyage, vous avez beaucoup voyagé ensemble, que toutes les deux ou en famille, comment c'était
tout, mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de déplacements professionnels qui nous ont aussi rapprochés. On a eu la chance que nos spectacles pour enfants soient joués, on est allé à Dubaï, on est allé à Tunis... On a fait des...
Puis
des,
plein d'endroits en province.
Voilà, des petits endroits en province, mais c'est vrai que surtout là, donc c'était super.
Et puis tous les étés, depuis que Zélie est née. Et donc Zélie, l'aînée d'Émilie, elle va avoir 13 ans. Tous les étés, on se fait au moins une semaine de vacances ensemble avec tous les enfants. C'est pour ça que c'est des cousins. Avec mon frère aussi qui a 3 enfants. Et c'est génial parce que avec mon frère, moi et les enfants d'Émilie, on a 3 pères du même âge. Donc, et depuis des années, on va dans l'île d'Oléron et on se fait nos petits rendez-vous familiaux. Ça tombe à l'anniversaire de la fille d'Émilie, à l'anniversaire de la fille de mon frère. Donc voilà, c'est la famille.
Trop bien, ce petit rendez-vous annuel.
Ouais. C'est hyper important.
Il y a eu une ou deux fois où ça s'est pas fait, mais c'est vrai que c'est...
Ouais, c'est important aussi d'avoir ces moments où on sait qu'on se retrouvera un peu quoi qu'il arrive. Enfin, parfois avec les emplois du temps de chacun, c'est un peu compliqué. Là, au moins, vous savez, tous les étés...
Nos emplois du temps, ils sont assez coordonnés.
Oui, du coup...
Et puis, voilà, on habite dans la même ville, à l'initiative d'Émilie aussi, parce qu'avant, j'étais dans Paris. Et puis, quand j'ai cherché, elle me disait, mais viens à Saint-Ouen, c'est bien. Et moi, je voulais rester dans l'Est. Et puis, au bout d'un moment... Elle m'a convaincue. Parce qu'Émilie, non seulement elle donne son avis, mais elle agit. Tu lui dis un truc, tout de suite...
C'est ta mère, là,
ouais, mais elle va chercher, elle va se mettre à activer des trucs. Et pour ça, c'est vrai que c'est super confortable. Et maintenant, ça fait 5 ans qu'on est à côté, c'est pratique.
Ouais.
C'est super pratique. Ça nous permet aussi de nous investir dans notre ville, d'aller jouer au social bar du coin ensemble... d'aller au cinéma ensemble, de faire plein de trucs sympathiques ensemble.
Pour toi, c'était évident de convaincre Coralie de venir ici à Saint-Ouen.
Bah oui, je suis pas vraiment convaincue. En fait, j'en ai parlé comme ça. Après, sa mère était là. Elle dit, mais c'est vrai, ça serait super. Elle allait regarder les annonces et puis on allait visiter un appart ensemble.
Oui, on a visité l'appart que j'ai trouvé. C'était avec Émilie, donc c'est incroyable.
Ouais.
Voilà, on se regardait toutes les deux. Ouais, qu'est-ce qu'on pense? Ouais, c'est bon. Validation d'Émilie, etc. Parce que c'est vrai que à cette époque-là, j'étais encore mère célibataire et que à un moment donné, c'est pas mal d'avoir le regard de quelqu'un d'autre ou la validation ou l'intervention de quelqu'un d'autre quand on n'a pas de conjoint, ce qui n'était pas du tout un problème pour moi. Mais voilà, du coup, d'être avec Émilie, de visiter cet appart, c'est rassurant. J'ai pas fait le choix toute seule.
Ouais.
Si c'est pas bien.
Et comme elle sait qu'elle me voit tout le temps, j'avais pas intérêt à lui vendre un truc pourri, sinon je me le serais fait reprendre.
Ouais.
Et vous m'avez parlé du voyage à New York, que c'était votre plus beau souvenir.
Ouais.
Pourquoi?
Parce que c'est une évasion sans les enfants. Hein.
Ouais, bah oui, déjà.
Ouais. En fait, c'était pour mes 40 ans. J'avais dit, moi, me faites pas de cadeaux, faites une cagnotte, et puis je voudrais bien partir en voyage. Alors, j'avais pas dit où, mais Émilie, elle savait exactement que mon rêve, c'était d'aller à New York. Et puis, elle a fait faire une chanson, elle a fait chanter tout le monde. Un jour, j'irai à New York avec toi.
Je sais plus si c'était mon idée. Je me demande si c'était pas l'idée de Marine.
Peut-être. C'est toi qui avais fait les feuilles, etc. Et je me suis dit... Mais en fait, c'est un message, elle veut venir avec moi. Et je lui dis, tu voudrais pas venir avec moi? Elle m'a fait, bah oui. Et voilà, et on est parti à trois avec une autre amie et on s'est régalé.
Ouais, parce que c'était le premier voyage qu'on faisait en fait qui n'était pas lié spécialement justement au boulot. Parce que c'est vrai que notre amitié est vraiment intimement liée à notre travail. Mais comme notre travail, c'est notre vie et c'est notre passion, on ne peut pas vraiment parler d'un travail au sens commun. C'est une amitié passion et c'est notre travail, c'est notre cœur aussi, donc ça joue pas. Mais là, tout d'un coup, on partait, effectivement, moi, ma plus petite fille, elle avait quel âge? Elle devait avoir un an, elle était petite encore. Là, on partait vraiment entre copines, sans boulot. Je pense qu'on n'a pas du tout parlé de travail, de trucs, vraiment. Et on a marché, on a un peu la même façon de voir les choses, de se perdre dans les rues, moi avec ma carte de New York.
Notre relation, c'est tout à fait ça. C'est Émilie qui regarde le plan et la carte, et elle me dit, on va là, qu'est-ce que t'en penses? Et moi, je dis, oui. Et moi, j'adore, je me laisse porter. Non, mais c'est vrai, c'est très confortable, parce que finalement, on est très, très différentes.
Ouais.
Très différentes toutes les deux, mais on se complète bien. Et puis on a des valeurs communes. Une affection mutuelle. Je dirais que c'est une forme de complétude, l'amitié, comme ça. On se complète.
Et quel souvenir vous a marqué à New York? Qu'est-ce que vous avez préféré?
Le premier jour, non, quand on a fait le Brooklyn Bridge. Là.
Ah ouais, c'est vrai que c'était magique. Ouais. C'était magique, ça.
On était parti par là, on avait traversé le pont de Brooklyn, on était arrivés...
C'est pareil, c'est Émilie, ça, qui avait dit « J'ai lu qu'il faut faire ça, moi, je dis oui, je dis oui à tout. »
Tout le début du jour, on était parti très tôt, je pense, il faut voir le soleil se faire un truc comme ça, et on était...
C'était magnifique.
Notre rapport au cinéma, on adore toutes les deux le cinéma, c'est vrai que New York, c'est un décor permanent de films... on était, ah bah c'est là qu'ils ont fait l'affiche du cinéma, il était une fois dans l'Ouest, il était une fois en Amérique. Voilà, ouais, toi tu me pars truc, ah, et puis là c'est les studios de tel truc de théâtre, toi tu me. Sur des. Voilà, et moi, ah bah oui, et puis j'ai lu ça, et on était. Là, je pense qu'on marchait 10 km par jour.
Quand on aime le cinéma, la littérature américaine, New York, ça reste un rêve.
Ouais,
hein.
Ouais, puis tous les bâtiments nous rappellent des scènes de films, trucs qu'on a lus. Enfin, c'est vrai que c'est impressionnant.
Ouais, c'est magnifique.
Et vous en avez profité pour aller au théâtre ?
Oui, évidemment. Oh là là, on est allé voir une comédie musicale. On avait une super pote à nous, parce que du coup, on a plein de potes communs. Et puis moi, je suis très. Je mélange. Donc, on était 4 copines. Une pote à nous qui était là-bas et elle nous a donné un plan pour avoir des places pas trop chères et on allait voir La Couleur Pourpre. Et tout le monde, bon, c'était quand même ma semaine d'anniversaire, donc c'est vrai que c'était un peu moi qui avais choisi, et puis j'avais une histoire particulière avec cette pièce, ce livre que j'avais lu, ce film de Spielberg qui me bouleverse. Et donc, c'est moi qui ai choisi, et on y allait. Et j'étais vraiment entourée de 3 grandes amies qui, vraiment, je voyais, voulaient que je sois bien et me regardaient avec attention. Et le spectacle a commencé, j'ai pleuré à la première note jusqu'à la fin. Et Annick, Émilie, Christine disaient « Ah, moi, pas encore !» Mais à la fin, on était toutes les 4 en larmes. C'était magnifique, magnifique.
Le plus beau souvenir.
J'ai acheté un CD, le CD, et je l'écoute encore. Oui, les vieux écoutent des CD.
Oui. Oh, ça fait pas de mal de temps en temps. Ah, c'est chouette, New York. Mm. Et vous avez réussi à vous refaire des voyages comme ça, hors professionnel ou pas?
Non.
Trop.
Ça va être moi qui vais devoir faire le prochain, là.
Oui, c'est
pour mes 40 ans. Mais pendant qu'on a fait, avec 2 ans de retard presque, à cause du Covid et tout ça. Donc là, je suis en train de réfléchir à où je voudrais partir. Et Coralie m'accompagnera aussi. Parce que moi aussi, je suis célibataire. Plus elle, mais moi, oui. J'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner.
On a échangé nos places.
Voilà.
Non, mais c'est vrai que les voyages, après, non, on ne peut pas trop en faire parce qu'on a les enfants et puis c'est cher.
C'est beaucoup dans le milieu du travail aussi.
Voilà, c'est cher. Comme on disait tout à l'heure, on n'a pas la bosse de la...
Bon, après, c'est sympa de se retrouver à Dubaï dans le cadre
génial. Ça, c'est génial. Dubaï, destination qu'on n'aurait jamais choisie parce que quand même, politiquement, écologiquement, ce n'est pas nos valeurs. Mais on ne va pas se mentir. On était très contents d'y aller et de découvrir.
Dans un autre cadre, ça vous serait pas venu à l'idée?
Ah non, pas du tout, non.
Non, c'est pas juste là ce qu'on aurait choisi.
Ouais. Pas du tout, mais...
Et quand vous partez comme ça aussi loin pour le travail, vous restez combien de temps? Parce que...
C'était une semaine, je crois.
Ouais, c'est au moins une semaine à chaque fois.
Parce que parfois, on en voit qu'il reste 24 heures, il repart.
Non, nous, on...
Vous en profitez un peu quand
même. Ah non, on part toujours pour en profiter. On essaie toujours... quand moi, j'étais avec un autre spectacle, mais je veux toujours quand même... voir la ville où je suis. C'est vrai qu'il y a des gens qui tournent énormément, qui profitent de rien. Nous, on essaie quand même, c'est important.
Ouais.
C'est important de regarder autour de soi, quoi.
Ouais. Et pour profiter de la vie, est-ce que... donc, vous m'avez tous les deux parlé de la plus grosse épreuve que vous ayez dû affronter, et c'est ta maladie à toi, Coralie.
Oui.
Quand est-ce que tu l'as appris? Est-ce que ça a changé aussi votre regard sur les choses que vous faites ensemble? Racontez-moi un peu ce passage, ce moment-là.
En fait, ce qui est très particulier, c'est que... Donc, j'ai eu un cancer assez grave, grave.
Très grave, grave.
Et Émilie, sa maman, elle est morte d'un cancer quand Émilie était jeune. Donc, c'est vrai que c'était compliqué pour elle, et forcément extrêmement compliqué pour moi. Moi, quand j'ai senti que j'étais malade, c'était autour des fêtes. Au mois de décembre, j'ai senti que j'avais une boule, etc. Bon, bref. J'en ai pas parlé à Émilie, parce que je voulais pas trop lui gâcher ses fêtes.
Si, tu m'en as parlé un peu.
Mais je t'en ai parlé tard.
Avant, tu m'en as parlé, tu as déjà senti un truc. Je sais que t'étais allé voir...
Mais quand ils ont commencé à dire « Oulala, ça craint », c'était le 21 décembre. Là, je ne te l'ai pas dit. Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais qu'elle passe un bon Noël quand même. Donc,
ouais, je me rappelle que je m'en doutais tout à fait, même si voilà. Je n'en ai pas parlé, parce que j'en ai parlé à Noël, j'ai parlé que de ça quand on s'est vu.
C'est mauvais signe, voilà. Quand on sent une boule au niveau de la poitrine.
Et donc, et en fait, le diagnostic, après moult IRM, scanner, etc., malheureusement, c'est tombé le jour de son anniversaire. Et donc, je pars en voiture à l'hôpital et elle me dit « ça va te porter chance ». Évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui... Et puis, bah, voilà, j'ai eu le diagnostic. J'ai dit, bah, ça ne m'a pas porté chance, mais c'est pour rien. Mais voilà, bon, bah, j'ai une récidive d'un cancer. Donc, j'avais une tumeur de 4 cm dans les ganglions, un mélanome. Donc, voilà, ça a été compliqué parce que pendant longtemps, j'ai eu mon pronostic vital engagé, etc. Mais bon, j'ai appelé Milly, je lui ai dit ça. Et mon mec m'a dit, allez, viens, on ne rentre pas à la maison, on va au resto. Et Émilie nous a rejoint au resto avec un énorme bouquet de fleurs, alors que c'était son anniv. Et c'est moi qui ai mis un cadeau le jour de son anniv. Voilà. Et puis après, je te laisserai évidemment donner ton point de vue, mais c'est vrai qu'Émilie m'a énormément soutenue, sans jamais trop me faire sentir sa peur. C'est vrai que moi, j'ai quand même eu des moments pendant très longtemps où j'ai essayé de penser à ce qui allait se passer après ma mort, des choses comme ça. Il a fallu en parler par rapport à mon enfant, tout ça. J'ai essayé de pas être trop chiante, je crois. J'ai beaucoup vécu les choses dans mon coin, en sachant quand même toujours que, mes amis, Émilie était là. Et Émilie a pas hésité quelquefois même à forcer ma porte et à me dire « non, mais je viens ». Voilà, mais j'ai eu une espèce de pudeur, ça sans doute mal placée, où j'ai pas voulu trop exposer ma maladie. Je l'ai jamais cachée, mais je veux dire, je l'ai pas dit sur les réseaux sociaux, par exemple, etc. Et quand les effets de mon traitement étaient extrêmement difficiles, très peu de gens m'ont vue. Émilie m'a vue. Une fois, parce qu'elle a forcé ma porte. Elle a dit, non, mais je viens. J'ai dit, non, je veux pas, je suis vraiment pas bien, mais je m'en fous. Et voilà. Donc, ça a été un super soutien, mais c'est frais. Hein. C'était il y a trois ans et demi. Donc, c'est une sacrée aventure. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais bien, les gars.
C'est quoi ta version de l'histoire?
C'est vrai que quand tu parlais par rapport à ma mère, ça m'est revenu plus après. Sur le moment, j'ai pas pensé spécialement à ça. J'ai pensé vraiment que à toi et à ce que tu vivais. C'est sûr que j'ai eu très peur aussi, que j'ai essayé de pas le montrer, mais que c'était complètement terrifié aussi. Moi, je suis d'une nature très optimiste. C'est vrai que je vois toujours, j'ai du mal à envisager les choses d'une manière négative. Donc inconsciemment, je suis toujours en train de me dire que ça va s'arranger. J'espère que ça a pu t'aider un peu parfois à te sentir ce côté, même si parfois t'as pas envie, tu te dis non mais c'est pas, voilà, pas montrer sa peur parce que ça sert à rien non plus d'avoir peur à deux, c'est encore pire. Mais c'est vrai que ça me tenait vraiment à cœur d'être présente pour toi, même si j'avais peur, parce que voilà, c'est normal quoi, de en tant qu'amie, d'être là, de...
Bah, c'est terrifiant, hein.
Et voilà. après, c'est vrai que j'ai pris un petit peu Achille aussi, pendant que, quand ça allait pas, des moments, c'était, voilà, de discuter avec Thomas, qui est son compagnon, d'être présente à ce moment-là, de voir, de faire... Et en même temps, on se sent complètement inutile, parce qu'on se dit, tout ce que je fais, ça sert pas à grand-chose. Mais j'essayais, j'avais envie au maximum de voir comment alléger un tout petit peu cette période pour que ça passe bien, quoi. Enfin, que ça se passe bien. Enfin, forcément, quand les personnes qu'on aime sont mal, on a envie qu'ils aillent le moins mal possible. Et quand tu parles de pudeur, je pense que... Je sais pas si c'est de la pudeur ou si c'est le fait... moi, c'est comme ça que je le ressens quand... Quelqu'un quand soi-même on va mal, on n'a pas envie de faire porter aux gens qu'on aime cette douleur. Parfois, c'est que ma mère, elle dit, le plus dur, c'est pas pour ceux qui partent, pour ceux qui restent. Ou de se dire, si eux, ils sont tristes, ça va me rendre encore plus triste. Après, il y a forcément ton truc à toi, mais il y a aussi le côté, les gens vont être tristes, tout le monde va être... Ça va, et de voir les gens tristes autour de soi, ça rend encore plus triste. Donc, j'essayais de pas montrer, sa peine, son truc. Quand tu me dis, là, ça m'a touché, un tel a pleuré, machin. Et moi, j'essayais de pleurer le moins possible, justement, pour pas que tu es en plus à supporter d'autres douleurs et d'autres peines, alors que peut-être ça t'aurait fait du...
Non.
C'était pas de l'indifférence ou quoi, c'était
Ah non, mais j'ai jamais vu comme ça.
Je
savais aussi qu'elle était obligée de se protéger un peu. Moi, c'est vrai que ma mère, au début, était tout le temps extrêmement bouleversée et qu'à un moment donné, je lui ai dit « Maman, c'est pas possible. Ma mère, elle habite à 500 km. » Et elle voulait venir me voir quand j'ai eu le diagnostic, même si ça faisait un mois qu'on avait compris. J'ai dit non, ne viens pas parce que je peux pas porter ton chagrin.
Ouais.
En plus, protéger les autres. Et ça, je pense qu'Emilie, elle en avait conscience, que je pouvais pas en plus la protéger. Parce que finalement, on le fait beaucoup. Et puis moi, j'avais un enfant de 11 ans à la maison qu'il fallait que j'assure, donc j'avais déjà, on a beaucoup beaucoup apporté. Mais c'est vrai que après, Émilie, elle a fait un retour. Ce que tu m'as dit.
Oui, après moi, je me suis plus tard, ça a été plus à partir du moment où t'étais entre guillemets sortie d'affaire. Enfin, on s'est rendu compte que le traitement marchait parce que son pronostic vital a été quand même engagé plusieurs mois. On n'était pas sûr du tout que ça fonctionne, que ça puisse marcher. Quand on s'est rendu compte qu'elle pouvait avoir droit à ce protocole et que ça commençait à fonctionner, après j'ai commencé à m'identifier beaucoup justement à son fils, parce que moi j'ai perdu ma mère quand j'avais 14 ans, de la même maladie, et je l'ai vécu dans un truc où elle avait le même âge que Coralie en fait, donc c'était très bizarre et très difficile à voir, d'imaginer que en fait tout ce qu'elle avait traversé, c'est ce qu'avait traversé Coralie au même âge, quoi. Donc ça m'a rappelé des trucs où on se rend pas compte, quand on est enfant, on voit pas ses parents à 40 ans, ils nous paraissent hyper vieux, puis d'un coup on a le même âge, et on se rend compte de ce que c'est.
Oui, tu m'as dit ce qui m'a tenu, mon objectif, etc., c'était mon fils. Son père est quasi inexistant, et l'idée de laisser mon enfant, c'était... Mais c'était de ça dont je souffrais le plus. Et c'est ce que m'a dit Émilie. Elle m'a dit, quand j'ai vu ce que tu ressentais pour tes enfants en étant malade, tout ce qu'on porte de je ne sais même pas si j'étais en colère, mais d'énergie, de culpabilité, etc. En fait, tu as pu un peu imaginer finalement ce que sa mère avait vécu. Et ça, moi, j'en avais pas du tout conscience. Je me disais juste que je voulais la protéger parce que sa mère était morte de ça. Mais elle me l'a dit après.
Ouais.
Elle avait le même âge que toi et tout. Et là, j'ai fait, fou, ouais, quand même. C'est une aventure aussi pour Émilie de vivre l'intimité de quelqu'un comme ça avec ce qu'elle avait vécu, quoi. Voilà.
Et du coup, t'as apporté aussi quelque chose pour ton fils, à toi, Coralie, pour, je sais pas, des clés pour dire, moi, au même âge, j'étais dans cet état-là, enfin...
Non, c'est difficile d'en parler, je pense qu'il n'a pas le recul suffisant pour s'en rendre compte, et c'est... J'essayais d'être, au contraire, de rendre les choses quand il était chez moi, voilà, de lui faire des trucs qu'il aime, des pizzas, de regarder des films, de rigoler, de lui changer les idées... Plus que de... Mais par contre, j'ai pu expliquer peut-être certains de ses comportements à Coralie par rapport à son agressivité, au fait qu'il refuse de voir, qu'il lui, il refusait d'admettre qu'elle était vraiment très malade ou quoi, il l'aménageait pas du tout. Mais mon frère était pareil. Moi, j'étais complètement dans la conscience quand j'étais petite. Comme j'étais toujours très positive, très truc... Je pense qu'on m'a caché beaucoup la réalité de la situation et que je refusais de la voir aussi. Donc j'ai traversé les choses un peu dans un déni complet. Mon frère, lui, je me rappelle qu'à l'époque, il était très dur avec ma mère, que ça a été, il s'en est beaucoup voulu après, mais enfin, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est une façon de se protéger aussi. Et je lui disais, c'est pas qu'il est insensible ou que machin, c'est que c'est sa façon à lui de supporter cette façon de voir en se bouchant les yeux et en étant dur avec toi pour te faire réagir, pour pas que tu te laisses aller, même inconsciemment.
Oui.
Et je pense que...
Il faut toujours prouver à son enfant qu'on est vivant, en fait. Mon fils, il a été très dur avec moi, mais il voulait que je lui montre que j'avais toujours cette pulsion de vie pour pouvoir lui résister, ce que j'ai fait, mais ouais, c'était chaud. Donc c'est vrai, quand Émilie me disait « Non, mais mon frère, il était pareil et tout... » Parce que c'était aidant, c'était un peu de baume sur ces ces énormes plaies. Mais voilà, donc on a, c'est vrai qu'on a vécu ça ensemble, la proximité aussi géographique. J'ai eu des super amis, Émilie en tête, qui ont aussi beaucoup soutenu mon conjoint. Enfin, je dis mon conjoint, ça fait 2 ans qu'on devrait être mariés avec le Covid. Mon mari. Voilà, qui ont été là aussi pour mon mari. Émilie, il avait aussi besoin d'un espace de parole. Ou c'est hyper important de soutenir celui qui est aux premières loges, quoi. Donc ça, c'était super. Et on a continué à bosser, surtout.
Ouais, j'allais venir. Ouais. Parce que toi, Coralie, du coup, quand t'as appris le diagnostic, t'as pas hésité à en parler à Émilie. Bon, t'as attendu un peu les fêtes, mais tu t'es pas dit « je vais le garder pour moi, on va bosser comme si de rien n'était
». Ah non, d'abord, c'était impossible parce que, voilà, ça s'est vite vu. J'ai pas perdu mes cheveux, hein, mais voilà, j'ai quand même eu une apparence physique. Et puis moi, je l'ai caché à personne. Je trouve que c'est même important de dire qu'on est malade. Voilà, encore une fois, j'ai pas fait une annonce sur les réseaux sociaux parce que c'est pas mon truc. Mais en revanche, quand je côtoyais quelqu'un, si je devais arriver à lui dire, je lui disais, hein, y a pas de honte à être malade. N'ayez surtout pas honte si vous êtes malade. Voilà, non, je voulais juste qu'elle passe pas un trop mauvais Noël.
Voilà, mais quelques jours de répit.
Mais après, voilà, après, je pense pas avoir été dans la plainte et ça aussi, Émilie, là-dessus, tu m'as vachement aidée. C'est que je minimisais beaucoup, pas dans ma tête, hein, je savais très bien ce que je vivais, mais non, mais ça va, non, mais ça va aller. Mais non, mais Coralie, t'en chies, machin, t'as le droit de le dire. Non, c'est dur, t'as le droit de le dire. Moi, j'ai un côté super woman, exemplaire, faut tout mener de front, faut tout faire, j'ai un peu été élevée comme ça, puis c'est ma nature, et c'est ce qui m'a sauvée très certainement, une force de vie, tu prends une claque, tu te relèves, etc. Et puis voilà, de dire, non, Coralie, prends en compte ce qui t'arrive, t'as le droit là, 2 minutes. Ah bon, j'ai le droit, ok. Bon, alors 2 minutes.
Et après, les gens, ils m'appelaient aussi beaucoup, moi, pour prendre de tes nouvelles.
Ouais.
Ce qui a été dur aussi, justement, au moment où tu me l'as annoncé, t'avais pas le courage de le dire à tout le monde, et beaucoup de gens qui m'ont appelé, où là, ça m'a permis de... Enfin, ça m'a permis, ça m'a... Où j'ai vraiment réalisé les choses, c'est de réexpliquer à tout le monde les trucs. C'était difficile aussi, et en même temps, ça permettait aussi que ce soit pas... C'était plus difficile pour eux de t'appeler toi, puis toi, t'avais pas la force et de redire à tout le monde,
de rassurer tout le monde.
Voilà, c'est ça, rassurer.
Ouais, c'est vrai que ça, c'est un énorme relais aussi.
Les gens, ils m'appelaient, alors comment ça va, régulièrement, tu vois, après, ils me disaient, ils prennent pas de mes nouvelles, mais ils m'ont appelé, moi, ou ils t'envoyaient des petits messages. Ceux qui t'ont pas donné de nouvelles, ils m'ont pas appelé non plus. Mais il y en avait beaucoup qui ont mis des petits messages et qui m'appelaient, moi, pour que moi, je leur raconte comment ça se passe, qu'est-ce qui va. C'est vrai que je te le disais pas forcément tout le temps non plus, mais voilà.
Ouais, parce que même pour toi, ça devait être hyper lourd de répéter sans cesse la même chose. Ouais. Surtout que l'annonce, j'imagine, tu dis à tout le monde la même chose, tout le monde te repose les mêmes questions.
C'est fou, hein, ce que disait Émilie tout à l'heure sur le fait qu'on pense aux autres. Quand j'ai eu l'annonce le 8 janvier, là, bon, j'ai dit « Ok, c'est la merde, on va tout faire pour vous prolonger le plus longtemps possible », cette phrase m'est restée dans la tête. Et en fait, je me disais tout le temps « Faut que je le dise à mes amis, parce que j'ai aussi des amis qui sont en province et que moi, je suis pas très téléphone, donc j'ai des amis en province. Si je les vois dans 1 heure, ce sera comme si on s'était vu la veille et on se dit tout. Mais je téléphone pas beaucoup, tout ça. Et je me disais, merde, ils vont aller à mon enterrement ou on va les prévenir au dernier moment. Et c'était affreux parce que, évidemment, je faisais le scénario de mon enterrement tout le temps. Et il fallait que je le dise. Et en fait, j'ai écrit un mail. Je fonctionne beaucoup à l'écrit quand il y a des choses qui me nouent, qui me bouleversent, etc. J'aime beaucoup écrire. Et donc, j'ai écrit un mail à cette amie. Et après, cette personne. Et après, ça y est, c'était bon. Je pouvais rentrer dans la guerre et combattre la maladie. Mais tant que je ne les avais pas prévenus, c'était pas possible. Donc, j'ai fait ça. Et après, certainement, oui, il y a eu des... Enfin, pas certainement, pas je le sais, il y a eu beaucoup de relais d'Émilie, de mon compagnon, etc. Mais aussi parce que les gens aussi, ils ont peur de parler directement.
Ah, hein. Oui. Il y a aussi beaucoup de ça.
Il y a de tout. Hein.
Ils n'osent pas.
Il y a de tout.
Ouais, puis il y a peut-être aussi ce truc de... Toi, tu le vis au quotidien et quand on est à l'extérieur, on se dit mais si je la vois et qu'on fait que parler de ça, ça va peut-être pas être hyper réjouissant pour elle, donc on évite d'en parler, donc après on se renseigne un peu à côté, enfin peut-être aussi ce tabou-là.
Oui. Après voilà, les gens ils font comme ils peuvent avec ça et voilà, je ressors de cette épreuve grandie comme de toutes les épreuves. Je vis avec une épée de Damoclès jusqu'à la fin de mes jours. J'ai encore du travail à faire là-dessus. Mais ça m'a apporté énormément. Mon mec est un mec en or. Je le savais, mais je l'ai vérifié. Et mes amis, pas tous, mais dont Émilie, largement dans la pole position, sont des gens merveilleux. Parce que c'est dans les moments comme ça... C'est et dans les grands bonheurs et dans les grandes douleurs qu'on on vérifie ses amitiés. Et là, bon, bah voilà. Moi, je suis très gâtée. Mmh. Très gâtée.
Et Émilie, toi, du coup, tu forçais la porte et tout de temps en temps. Est-ce que tu avais mis en place certaines choses pour essayer de changer les idées à Coralie? Je sais pas. Tout à l'heure, t'as dit que.
Bah, un peu pendant. Ouais, et puis après, je savais que quand ça a commencé à aller un peu mieux, quelques mois après. Qu'elle rêvait de partir, qu'il n'y avait pas trop de problèmes. J'avais essayé d'organiser une petite fête chez moi pour faire une cagnotte pour lui permettre de s'évader un petit peu. Donc j'avais essayé de réunir un maximum de gens, de lui faire un peu une petite fête surprise chez moi. Et on avait réussi à récolter de l'argent pour qu'elle puisse partir une semaine en Italie. J'avais dit pour elle et pour Thomas justement qui devait vivre ça. J'ai dit voilà, elle ne se plaint pas beaucoup, mais c'est difficile pour elle. Donc ça lui ferait du bien de changer d'air et d'aller voir autre chose. Donc les gens ont vraiment...
Et de partir sans son gosse.
Les gens, puisque Coralie, elle est tellement généreuse, elle a aidé tellement de monde partout qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont répondu présent. Ouais. Ils sont pas pu tous venir, mais il y en a quand même beaucoup qui sont venus. Et il y en a surtout énormément qui ont participé et qui étaient heureux de pouvoir faire ça... pour elle, parce que c'est pas grand-chose pour chacun, et en même temps, on savait que ça ferait
ça, c'était bien. Un très beau cadeau, le voyage, bien entendu, mais surtout de voir la liste des gens qui ont donné des sous, ou qui ont écrit un mot, ou qui ont fait une vidéo. Émilie m'a fait un très beau cadeau, j'étais là, lui, elle. Et c'est vrai que dans ces moments-là, recevoir comme ça de l'amour... je me rappelle de Mathieu qui se filme, alors que c'est quelqu'un très fermé, cynique, qui se filme pour me faire un message, d'élèves ou de gens complètement inattendus. Ça, c'est... Oui, c'est mieux que la chimio. Hein. ça fait un effet... c'est galvanisant, quoi. J'ai remercié chaque personne individuellement. Ça m'a beaucoup touchée. Si vous écoutez, vous m'avez beaucoup touchée.
Et vous avez continué à travailler?
Ah ouais, absolument. Ouais. Absolument.
Il y a eu une petite pause ou un moment de...
Ouais, non, il y a des moments où je ne pouvais pas, etc. Mais tout le monde a été hyper respectueux de ça.
Et puis, il y avait l'idée du spectacle qui du coup, tu as commencé à écrire pendant ce moment-là.
Ouais. J'ai écrit mon spectacle, La biche répétita, pendant que j'étais malade. J'en avais déjà parlé avec Émilie parce que Émilie... vous la voyez pas, mais elle a un capital comique, c'est une super comédienne. Et je voulais absolument la mettre dans une pièce de La Biche depuis toujours, donc j'avais des idées et j'ai utilisé en effet le moment de ce temps libre pour dire je vais pas foutre toute ma vie. J'ai écrit la pièce et on l'a montée pendant que j'étais malade, avec tout le monde qui s'adaptait à ma fatigue.
Vous avez fait de la scène et tout quand même pendant cette période?
Ouais.
On a fini, on a créé le spectacle, ça faisait pile un an que tu avais eu le diagnostic. Enfin, c'est pile un an que ça avait commencé, parce que c'était en décembre, la création. Et on a fini, le dernier jour où tu as pris ton traitement, c'est le jour où la pièce s'est arrêtée malgré nous, parce que c'était le soir de l'annonce du confinement.
Le 15 mars, c'était...
On avait pris de l'alcool pour fêter le fait qu'enfin, ça y est, c'était fini le traitement, tu allais pouvoir recommencer à vivre, et là, bim, on a été confinés.
Ouais, moi, il faut savoir que dans la vie, j'ai de la chance au final, mais il y a toujours... sur mon parcours plein de trucs chiants. Mais ça finit toujours bien, c'est l'essentiel. Mais bon. Ouais, on a enchaîné. J'ai pris mon dernier cacheton de chimio et 2 heures après, il disait fini, confinement, hop, 3 mois.
Donc même pas de fête pour la rémission.
Ah, bah, même pas de fête pour la rémission. Et puis, mais bon, du coup, un repos obligé, un repos forcé qui était, je pense, pas plus mal. Même si, bon, voilà.
Ouais. Et pendant le confinement, donc toi, t'allais mieux. Vous avez continué à travailler. Comment ?
Non.
Enfin, alors vous pouviez pas aller sur scène, etc. Mais quand on est comédienne et que ben on est considéré comme non essentiel pendant un certain nombre de temps, enfin un certain nombre de mois, quasiment d'années, comment on le vit ? Comment on se soutient aussi là-dedans ?
Bah, c'était particulier, je pense que ça a été vraiment une période, je pense, pour tout le monde, un peu blanche, un peu hors du temps. Sur le moment, on a vécu les trucs comme ça. Toi, t'es partie un peu chez ta mère, donc on n'était pas à côté. Au début, on vivait un peu au jour le jour, on savait pas combien de temps ça allait durer. On venait de sortir d'une grosse période de création, donc on n'était pas spécialement dans une envie à un moment d'écrire, de réfléchir au travail pour plus tard. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression.
Non, et puis surtout, on voyait tout le monde qui écrivait, qui faisait des trucs avec le confinement, et on s'est... disait, ben non, on va pas rajouter un truc, on vient de lancer un spectacle qui s'arrête, notre projet c'est ça, donc on n'a pas voulu créer autre chose. Après, on s'appelait beaucoup parce qu'on avait des choses administratives, comptables, on a essayé de garder la compagnie hors de l'eau.
On a réussi à trouver des subventions, à trouver un peu d'argent, on a essayé de se bouger comme ça pour...
Ouais, on a quand même 15 salariés, 15 personnes qui travaillent pour nous toute l'année, qu'on fait vivre, donc on voulait pas que tout s'écroule, donc voilà... Émilie, avec son pragmatisme, elle avait vu des choses dont elle m'a fait part, et puis on a bricolé comme ça à distance, mais ça a été 3 mois où on s'est pas vu.
Et après, dès qu'on a eu le droit de rebouger un peu ou quoi, je sais que je suis venue.
Elle est venue direct.
Quelques jours avec ses filles et ses parents. Ça a permis de. Alors, on faisait l'école à la maison à l'époque encore.
Alors c'était dur, ça. Ouais. C'était dur. On a tous vécu ça, mais c'était difficile.
Et là, ça a bien repris au niveau de la compagnie de...
Oui, on a repris notre spectacle plusieurs fois. Mais bon, quand même, depuis 2 ans, la situation, la pandémie fait que c'est compliqué. On a repris, bim, il y a eu l'instauration des passes sanitaires. Là, on a joué novembre-décembre où c'était hyper difficile parce que il y avait la psychose. Donc voilà, on aimerait bien retrouver un peu... Enfin, pouvoir éprouver notre travail... dans un contexte un peu plus normal, sans se dire, bon... Puis on va pas se mentir, les gens sortent moins aujourd'hui. On a tous pris des habitudes un peu casanières. Et c'est compliqué, quoi. Ouais. Heureusement, il y a les spectacles jeunes publics où là, les parents veulent toujours quand même occuper leurs gosses. Ouais. Donc ça...
Ils en ont eu marre de les avoir à la maison, alors.
On les comprend.
Et t'as parlé de ton mariage, Coralie, c'est fait déjà ou ça...
Ah non, bah ça devait être au premier confinement, donc voilà. L'année dernière, on l'a réannulé parce que c'était encore la merde, la psychose. Donc là, c'est le 18 juin. Je dis toujours, s'il y a la peste bubonique, je me marie quand même. Et donc, évidemment, Émilie est mon témoin.
Ah, c'est ce que j'allais demander.
Évidemment. Nous avons essayé ma robe pour la première fois il y a 4 jours. Et il y a 10 cm où elle ne ferme pas dans le dos. C'était ici, chez Émilie, une angoisse nouvelle. Non, je n'ai pas grossi du dos, il y a eu un problème. Donc voilà. Non, mais bien sûr, on fait ça ensemble.
Ouais. C'était quoi ton émotion quand elle t'a demandé d'être témoin ?
Eh ben...
Ah, je crois qu'elle m'a dit, oh ben j'espère bien.
Ça paraissait évident.
Oui, parce qu'en fait, voilà, j'ai pris des témoins. Mes 2 témoins sont des gens qui m'ont aidée à rencontrer mon mari. Émilie connaissait Thomas.
Et puis tu t'étais mis beaucoup de barrières aussi dans tes rencontres en disant je veux pas qu'il soit comme ci, comme ça.
J'ai une légère différence d'âge avec mon mari. Je suis plus âgée.
C'est pas très grave.
Et voilà, mais je suis tendance. Et c'est vrai qu'au début, tout ça, elle me disait, mais non, elle le connaissait très bien, mais il est génial, il est super, etc. Et c'est vrai que, voilà, donc j'ai choisi des témoins qui ont du sens par rapport à mon histoire amoureuse et familiale.
Tu la voyais avec, avec Thomas, du coup, pour les présenter?
Ah non, non, pas du tout. Je n'aurais jamais pensé de moi-même.
Personne n'y aurait
c'était
pensé.
C'était un ancien élève à moi, donc je connaissais des cours, de ce que je voyais, une personne très joyeuse, très, très solaire, très dynamique et tout. Donc quand elle m'en a parlé, je me suis dit, ah bah oui, non, mais qu'elle m'a demandé ce que je pensais de lui. J'ai dit que c'était quelqu'un de très sympa, tout ça, mais... J'aurais jamais pensé à dire il faut que je te présente telle personne.
Ah non,
à
personne.
C'était pas,
C'est mon autre témoin, Johan, qui est l'entremetteur. Mais bon, il pensait à un coup d'un soir. Il pensait pas à cette révélation que ça mènerait à un mariage. Mais j'ai rencontré une très très belle personne, un bel humain.
Et donc, si c'est un ancien élève à toi, vous travaillez avec lui aussi?
Non.
Aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui,
mais à l'époque, non.
À l'époque, non. Ah non.
Parce qu'il est comédien aussi.
Oui. Ouais. Oui. J'ai écrit la Biche Repetita pour Émilie, pour lui, et puis et on joue avec deux autres amis avec qui je jouais dans un spectacle qui s'appelle Les Colocataires, Delphine Grand et Mathias Bensa. Donc on est cinq potes et c'est génial. Ça se ressent sur scène et puis. Enfin, partir en tournée, là on va faire un mois à Avignon, à 5. On sait qu'Émilie va faire beaucoup la cuisine parce qu'elle est douée pour ça. Et puis alors du coup, bah, nous, on se laisse un peu porter là-dessus. Voilà, on a chacun nos compétences. Oui. Mais on partage aussi des tas d'amis et des tas de connaissances. On pense évidemment à Hélène, tout ça, qui nous connaissent toutes les deux. Et c'est super, quoi. Voilà. Émilie, ma mère dit toujours oh, bah, moi, c'est ma fille adoptive, c'est la famille, c'est vrai, même mes oncles. Voilà, Émilie fait partie de la famille, mes frères. Non, mais Émilie, c'est pas pareil, c'est la famille. Voilà, c'est juste une conversation, c'est toujours Émilie, c'est pas pareil, c'est la famille. Donc, c'est super agréable.
Ouais. C'est quoi vos projets ensemble là avec la compagnie en ce moment? C'est une nouvelle pièce?
Pour l'instant, c'est Avignon et d'essayer de développer justement de nos spectacles, de faire de la diffusion, justement de profiter un peu de que nos enfants soient grands et pouvoir bouger plus pour les diffuser au maximum.
Oui,
et si on trouve d'autres idées après, pourquoi pas, mais pour l'instant, je pense qu'il faut qu'on...
On sait qu'il faut qu'on passe un peu la deuxième, la troisième, je ne sais pas comment on dit, la deuxième vitesse. Voilà, on nous le dit beaucoup, c'est vrai que nos spectacles, ils fonctionnent très bien, ils jouent toute l'année depuis des années. Et voilà, il faudrait qu'on arrive un peu à se bouger pour les vendre, pour développer notre activité, mais c'est pas notre truc, hein. C'est pas notre truc. Nous, on est heureux sur scène. Hein. Voilà.
Et Avignon, ça, vous, comment vous l'attendez, ce festival? Et comment vous travaillez dessus?
Ben, on l'attend avec impatience et crainte, hein, je pense. Parce qu'on se disait, bon, c'est bon, là, 2022, ce sera fini. Le Covid sera derrière, on va pouvoir bouger. C'est moins sûr aujourd'hui. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Donc, on espère que d'ici là, quand même, ça se sera amélioré et que les gens vont se remettre à sortir plus, parce que c'est quand même un gros investissement financier. Heureusement, grâce à ce qu'on a travaillé pendant le confinement, les Covid, on a réussi à mettre de l'argent de côté, des aides qu'on a reçues. Sur les autres spectacles, on part avec un budget qui est quand même assez confortable, enfin, en tout cas, qui est pas dérisoire, parce que ça représente beaucoup d'argent. Mais c'est sûr que c'est toujours stressant, donc on est très heureux de cette expérience parce qu'on sait qu'on va bien s'amuser et en même temps on espère que ça va pas être
Moi je l'ai déjà fait trois fois Avignon, Émilie.
Moi j'ai toujours refusé. J'aime pas la chaleur, j'aime pas tracter.
Donc,
c'est le contraire d'Avignon.
Ouais. Ça va être
non, j'aime mais, pas me vendre, donc bon voilà.
Ça va être chaud, mais à un moment donné, voilà, il faut. Puis c'est vrai qu'on aime énormément spectacle. On a fait un pari, et ça, c'est vraiment on, hein. C'est un spectacle de troupe. De faire un spectacle à 5 tout seul, sans être produit, c'est une folie. Aujourd'hui, moi j'ai écrit pour les gens. Voilà, j'ai écrit spécifiquement pour Émilie, pour Thomas, pour Mathias, pour Delphine. Ils m'ont tous dit oui, une fois que je leur ai présenté le projet. Et on s'est tous lancés là-dedans en se disant, bon, on espère qu'on va pas trop galérer. Donc voilà, on part à Avignon avec un spectacle à 5, une comédie. C'est rare aujourd'hui, les comédies, les spectacles, c'est 2, 3, et c'est les femmes sont des putes, les mecs sont des connards. On a essayé de faire un truc un peu plus intelligent que ça. À 5, ça se renvoie la balle, ça se parle. On espère que les gens, les programmateurs vont saluer notre audace. Parce que ça marche bien, il est bien le spectacle, on n'a que des bonnes critiques, de la bonne presse, etc. Maintenant, il faut qu'on le vende, il faut qu'on le tourne.
Parce qu'Avignon, le but, c'est pas d'aller chercher du public pour Paris, c'est d'aller chercher des producteurs pour le faire en province.
Voilà. C'est de chercher surtout des gens qui achètent le spectacle pour le jouer en province, à l'étranger ou même à Paris. Hein. Moi, ça me va très bien. Mais voilà, des gens qui achètent le spectacle parce que jouer à Paris, c'est une économie... hallucinante, hein, 5 salaires par jour, voilà.
Plus la location du théâtre.
Alors que si on achète le spectacle, en plus on va pas le faire à un prix non plus démentiel, hein, on demande pas 1000 balles par acteur, faut pas. On est sérieux, nous ce qu'on veut c'est jouer. En plus la province, je veux dire la France c'est pas Paris, la province c'est merveilleux, on reçoit toujours un accueil, c'est vrai que on a eu de la chance de beaucoup tourner, moi j'adore ça. Les gens sont pas blasés, ils sont contents qu'on soit là, on est presque toujours hyper bien reçus, on voit du pays, on espère qu'on va le vendre ce spectacle et qu'on va le tourner et qu'on va se régaler.
Et il s'appelle comment ?
Ça s'appelle La Biche Répétite.
Ah bah c'est celui dont tu parlais.
Ouais, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est en fait la demi-heure qui précède une représentation, c'est un truc qui se passe en temps réel. C'était très important pour moi qu'il n'y ait pas de saut dans le temps. Donc voilà, c'est 30-35 minutes avant une représentation des comédiens. Ils se préparent sur scène parce que les loges, il y a une fuite dedans. Donc on découvre les comédiens, comment ils sont, leur interaction, leurs relations, etc. Et après, on joue la pièce de La Biche dans son entièreté. C'est une pièce courte. Donc c'est un spectacle qui fait 1h15. Et évidemment, bon, bah voilà, forcément, avant, le vaudeville n'est pas que dans la biche, le vaudeville, il est aussi dans la vie et ça se mélange. Donc, on joue deux personnages chacun, en fait.
Dans les questions un peu plus légères que je vous avais envoyées, je vous avais demandé quelle chanson vous fait penser l'une à l'autre, automatiquement. Racontez-moi.
Moi, j'ai eu du mal à choisir.
Hein, parce que t'as mis quoi
truc. Bah, j'ai mis, d'abord, je pensais à toutes les chansons qu'on a vues en spectacle.
Ouais.
Et après, j'ai pensé à New York, New York, parce que je l'ai vu en tête.
Ah oui, c'est vrai.
Depuis le premier pas qu'on a eu à l'aéroport.
On l'a chanté dans l'avion.
Et après, je l'avais en tête tout le temps. Donc, chaque fois que j'entends cette chanson, forcément, je pense à toi. Mais après, il y a tellement de chansons que j'entends, qu'on a eu dans Blabla, qu'on a eu dans les spectacles, qu'on a traversé, que c'est difficile de choisir une seule chanson.
Moi, j'ai mis Rihanna, je crois. Hein,
je me rappelais plus qui c'était. Je cherchais... Moi, je suis nulle.
Parce que c'était le début de notre spectacle. Voilà.
Je me rappelais plus qui chantait cette chanson, mais j'aurais pu le mettre.
On s'est éclaté toutes les trois dans notre spectacle Blabla. Bon, voilà, ça s'est arrêté parce qu'on avait beaucoup trop de choses à faire, puis parce que Hélène est partie en province. Hein. Elle n'est pas partie de notre amitié. Mais c'était extraordinaire parce que je nous revois vraiment derrière le rideau 4 secondes ou 2 secondes avant de jouer, vraiment
j'ai
en train de me dire
même. Notre première chanson, mais après ouais. Ça c'est vraiment trop pourri de parler de ça, c'est qu'on a quand même commencé avec la positive attitude de Laurie qu'on a assez vite abandonné
derrière le rideau, vraiment se dire ouais non mais tu vois Achille là, mais il faut que tu lui mettes du mitosil, bonsoir, et rentrer vraiment d'être dans des trucs où on était voilà, on parlait de notre vie, on était tellement sereine de travailler ensemble et qu'il n'y avait aucune inquiétude.
Si votre amitié était une relation fictive, vous seriez qui ?
Oh, j'ai eu du mal aussi avec cette question.
Ben, moi non plus, j'en sais rien. Laurel et Hardy, non ? Pourquoi pas ? C'est pas mal.
Qui serait Laurel, qui serait Hardy alors ?
Ah bah...
Laurel, c'est le grand.
Ah oui, c'est le grand, oui. Oh, bah, moi,
on serait les deux.
Moi, je voulais bien être Hardy. Non, mais...
Quand je cherchais des idées d'amitié féminine, souvent, même en faisant travailler des comédiennes ensemble, il y a toujours une sorte de compétition, de mise en...
De rivalité
qu'on n'a jamais eue.
Non, jamais.
On n'a jamais été en...
C'est tellement pas intéressant en plus.
Alors que pourtant, ça aurait pu, ça aurait été le même métier.
Ouais. C'est vrai que... Et même l'improvisation, le théâtre d'improvisation, à un moment donné, il y a un truc où quand même, on peut se tirer la bourre. De...
Mais on a des personnages assez différents.
Oui, et puis mettre en valeur l'autre. Moi, je conçois l'improvisation comme ça. C'est-à-dire que si tu mets en valeur l'autre, il va te mettre en valeur toi. Et donc, ça, c'est hyper, hyper agréable. Ça m'est arrivé d'avoir des amitiés féminines avec des personnes un petit peu plus jalouses, possessives, etc. C'est pas intéressant. L'amitié, c'est formidable parce que quand il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie. Émilie va respecter tout à fait mes autres amies qu'elle connaît, Annick, Linda, Hélène, et qu'elle adore, avec qui elles s'entendent super bien. Elles peuvent se voir sans moi. Et puis, si Émilie a une réussite, si moi j'ai une réussite, eh ben, on est contente pour l'autre. Quoi.
C'est ce qui est assez rare, je trouve, dans notre relation.
C'est le moment de passer à la boîte vocale. Chacune s'est isolée pour laisser un message l'une à l'autre qu'elle découvre maintenant. Et on commence avec le message de Coralie pour Émilie.
Eh bien, Émilie, salut, c'est Coco la rigolade. C'est pour te dire ce que tu sais déjà, mais que je suis ta plus grande fan. Tu me fais énormément rire. Donc, si tu organises mon EVJF, je te demande, s'il te plaît, de retrouver ce costume de carotte avec lequel tu étais rue Pigalle pour me faire rire à nouveau. Une soirée en costume de carotte, ça me fera très plaisir. Je t'embrasse.
C'est maintenant Émilie qui laisse un message à Coralie.
Ok, ça met pas du tout la pression, en plus, sachant que ça va être écouté par plein de monde. C'est comme si je pouvais lui dire un secret qui va être écouté par tout le monde. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire à Coralie ? Coralie, sache que tu ne te débarrasseras jamais de moi. Je serai toujours là pour te hanter où que tu sois. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de faire encore énormément de choses ensemble, je n'en doute pas. Voilà, et si tu mets des miettes avec le bout de gâteau avec lequel tu es parti, tu les ramasseras. Voilà. C'est tout pour moi.
Parfait, vous êtes toutes les deux laissées un message l'une à l'autre. Vous découvrirez tout ça à la diffusion de cet épisode. Juste une dernière petite question, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour avoir les nouveautés sur vos spectacles, sur vous aussi ?
Eh bien, sur notre site internet, www.le-ricochet-théâtre.fr, si je ne me trompe pas.
Voilà, le Ricochet Théâtre, voilà. Il y a tous nos spectacles, il y a nos petites têtes. Mmh. Et puis voilà, et puis si vous venez à Avignon, venez voir notre pièce. Hein.
Vous y serez de quand à quand alors ?
Tout le festival.
Ok.
Ouais, c'est tout le mois de juillet, je crois. Ouais.
Eh ben super. On vous souhaite en tout cas que ça fonctionne et puis on vous retrouve à Avignon.
Merci
beaucoup. Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Tu trouves en description tout ce dont on a parlé dans l'épisode. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux parler de Friendship autour de toi. C'est le meilleur moyen aujourd'hui de m'encourager. Tu peux aussi me laisser un avis et beaucoup d'étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, mais aussi Castbox. Ça te prend 2 petites minutes, c'est gratuit et moi, ça m'aide beaucoup. Et pour les coulisses du podcast, je te donne rendez-vous sur Instagram et Twitter. Merci encore pour ton soutien et ton écoute et je te dis à la semaine prochaine dans Friendship.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tu Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer ?
Je pense qu'on a ce qu'il te faut.
Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
Mais au fait, nous, c'est qui nous ?
Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast. Avant, j'étais prof.
Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast Friendship.
À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros.
Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements.
L'euphorie du lancement.
La solitude.
Les doutes.
La persévérance.
La passion.
Et enfin, les audiences qui décollent.
Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité.
Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix.
Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi.